Je vous souhaite la bienvenue à Kingston et à cette visite à pied guidé sur les traces de Sir John A. Macdonald. Mon nom est Peter Milliken et, tout comme mon prédécesseur, Sir John A. Macdonald, j'exerce les fonctions de député fédéral de Kingston et les îles à la Chambre des communes à Ottawa, la capitale du Canada. C'est à titre de fier kingstonien que j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre ville. Pour des raisons de commodité, l'enregistrement comporte la tonalité suivante, qui vous indique à quel moment vous pouvez interrompre la présentation pour vous rendre au prochain point d'intérêt de la visite. Pour votre sécurité, regardez toujours à gauche et à droite avant de traverser les rues de Kingston afin de vous assurer qu'aucun véhicule ne vient dans votre direction. Notre visite commence à l'extérieur du centre d'accueil qui est situé au 209 rue Ontario, en face de l'hôtel de ville. Sir Macdonald de Kingston. Aucun dirigeant canadien n'est aussi connu pour les liens qu'il a entretenus avec une collectivité que Sir John A. Macdonald, père fondateur de notre pays et tout premier de nos premiers ministres. Il serait impossible de parler de la ville de Kingston du 19e siècle sans mentionner Macdonald. Avant d'entrer dans l'hôtel de ville, construit avec l'idée que Kingston serait définitivement la capitale du Canada uni, prenez un moment pour réfléchir à ce que ce trésor architectural pouvait signifier dans la vie de Sir Macdonald de Kingston. Le début et la fin. Sir Macdonald est entré sur la scène politique en tant que conseiller municipal ici à Kingston, presque un quart de siècle avant l'avènement de la Confédération. Son parcours s'est terminé dans l'édifice où vous vous apprêtez à entrer. La dépouille de Sir John A. Macdonald, décidée en juin 1891, alors qu'il était premier ministre du Canada, a été transportée jusqu'ici par train, et exposé dans la salle du souvenir. Fermez les yeux pour un moment. Vous pouvez sans peine vous imaginer ce jeune immigrant écossais, la main au dos d'un autre conseiller, sur ses marches ou tout près d'ici, après une sortie à la taverne du coin peut-être, qui rit, qui essaie d'amadouer, de convaincre, et qui parvient à ses fins habituellement. Sir Macdonald de Kingston. Aucun autre politicien n'a su, comme lui, maîtriser l'art de la persuasion dans sa vie publique et personnelle, à l'exception peut-être de Barack Obama, actuel président des États-Unis. Durant sa dernière campagne, les foules lui ont lancé « Sir John, vous êtes éternel !» C'est bien vrai, son esprit est toujours aussi vivant ici, à Kingston. Et le sera à tout jamais. Entrez dans l'hôtel de ville. Une fois à l'intérieur, montez les marches, tournez à droite, puis entrez dans la salle du souvenir. Regardez vers la scène à droite et vous verrez le portrait de Sir John A. qui domine, à juste titre, la pièce. Sir John A. était âgé de 76 ans lorsqu'il est décédé au manoir Earnscliffe, sa résidence à Ottawa, le 6 juin 1891. Durant la période qui a précédé sa mort, une ligne télégraphique spéciale a été installée pour que les citoyens, anxieux de savoir comment il se portait, puissent être informés régulièrement de son état de santé. Grâce à Sir Macdonald, le tout nouveau Dominion s'étendait d'un océan à l'autre et toutes les provinces étaient reliées par un chemin de fer, le ruban d'acier, un chef-d'œuvre du génie et une vision difficile à saisir, même aujourd'hui. En juin 1891, bon nombre de citoyens trouvaient tout simplement impossible d'imaginer ce que le Canada deviendrait sans Sir Macdonald pour le guider. En tout, celui-ci a servi le Parlement fédéral durant 8624 jours à Ottawa, en grande partie à titre de premier ministre. Le libéral Sir Wilfrid Laurier, principal adversaire politique de Sir Macdonald, a déclaré durant le plus célèbre éloge funèbre de toute l'histoire du Canada, prononcé à la Chambre des communes à Ottawa devant un auditoire peu loquace, la vie de Sir John A. Macdonald est l'histoire du Canada. Après que des milliers de citoyens eurent rendu hommage à Sir Macdonald à Ottawa, la dépouille est revenue à Kingston sur le ruban d'acquier. La mémoire de Sir Macdonald a été commémorée à l'endroit où vous vous trouvez avant que la dépouille ne soit inhumée dans la concession de la famille Macdonald au cimetière Cataraqui. Par les personnes qui le connaissent depuis qu'il était enfant, par les concitoyens de Kingston. C'est encore dans cette salle que les citoyens de Kingston et tous les Canadiens et Canadiennes viennent rendre hommage au passé et au présent. En février 2005, à l'occasion du 40e anniversaire du nouveau drapeau du Canada, le premier ministre Paul Martin y a présidé les célébrations du jour du drapeau pour souligner le rôle particulier qu'a joué John R. Matheson, juge à la retraite et résident de Kingston, dans la conception de ce qui est devenu le drapeau canadien. Nous allons maintenant quitter la salle du souvenir pour nous rendre de l'autre côté de l'édifice, dans la partie où se trouve encore la salle du conseil de la ville de Kingston de nos jours. Mais d'abord, jetez un regard sur la gauche, où se trouve le bureau du maire actuel de Kingston. Avec un peu de chance, vous aurez l'occasion d'apercevoir le maire Rosen. Il a d'ailleurs souvent invité des visiteurs à admirer le bureau où il travaille. Qui pourrait lui reprocher? Après tout, son bureau a déjà appartenu à Sir John A. De tous les maires du Canada, celui de Kingston est le seul à pouvoir en dire autant. Salle du conseil. À Kingston, nous appelons ce que vous voyez le fer à cheval. C'est le droit où notre conseil discute des questions du jour. Sir John A. a été conseiller municipal de 1843 à 1846. C'est durant ce mandat que l'hôtel de ville de Kingston a été construit. Depuis ce temps, les visiteurs, le personnel et les conseillers municipaux de Kingston n'ont cessé d'être reconnaissants à l'égard de Sir John A. et de ses collègues. Si vous regardez à gauche, vous verrez le portrait de Norman Rogers. Brillant professeur et recteur de l'Université Queen's, Norman Rogers était ministre de la Défense du Canada en temps de guerre lorsqu'il a perdu la vie dans un écrasement d'avion en 1940. Éploré, son ami le premier ministre William Lyon Mackenzie King, vous en entendrez parler davantage plus tard, a dévoilé ce portrait. De l'opinion générale à l'époque, M. Rogers aurait dû succéder Mackenzie King. La place qu'aurait occupé Rogers demeure l'une des grandes énigmes de l'histoire du Canada. Aussi est-il de mise qu'il soit encore honoré dans cette salle. Ironiquement, d'autant plus que l'écrasement d'avion en question s'est produit près de Toronto, M. Rogers a donné son nom à l'aéroport de Kingston. Cette ironie du sort est rarement mentionnée de nos jours. Descendez maintenant l'escalier et transportez-vous dans le monde de la justice pénale du 19e siècle. Arrêtez-vous devant l'ascenseur. Le saviez-vous? Sir John A. Macdonald célébrait sa fête le 11 janvier. Saviez-vous qu'un autre premier ministre canadien, le très honorable Jean Chrétien, célèbre aussi sa fête à la même date? Monsieur Chrétien est né le 11 janvier 1934. Quant à Sir John A. Macdonald, il est né en 1815. Bonne fête au premier ministre. Le cachot se trouve à la cave. Même s'il n'est pas permis de le visiter sans être accompagné d'un guide, le moment est tout indiqué pour discuter d'une autre tranche de la carrière fascinante de Sir John A. Si vous souhaitez visiter le cachot, vous pouvez en faire la demande à l'un des guides de l'hôtel de ville ou participer à la visite accompagnée que vous propose l'hôtel de ville. Avant de se lancer en politique, Sir John A. Macdonald était l'un des avocats le plus en vue de Kingston et de l'Est de l'Ontario. Il n'est pas surprenant que Sir John A. se soit tourné vers une carrière en droit. John Langton, qui a été le premier vérificateur général du Canada, a déjà dit « Je ne connais aucun type d'entreprise qui permet de s'enrichir au Canada, sauf le droit et les affaires commerciales, pour ceux qui possèdent un magasin ou une taverne, et je pourrais peut-être ajouter le commerce des chevaux. Certaines choses ne changeront jamais. » Sir John A. a consacré la majeure partie de sa carrière d'avocat au droit commercial, mais il a aussi pratiqué le droit criminel durant 2 ans à titre d'avocat de la défense et s'est occupé de certains des cas les plus graves et ayant suscité le plus de controverses à l'époque. La brutalité, le fouet et la peine de mort étaient des réalités de la vie à l'époque. Sir John A. a défendu des clients de mauvaise réputation. Malgré le brio dont il a fait preuve, l'un de ses clients a été déclaré coupable et condamné à la potence. Le jour de l'exécution, le sort a voulu que la corde choisie soit trop longue. Le condamné est tombé et a passé par la trappe sous la potence pour atterrir sain et sauf dans le cercueil qui l'attendait. Vivant. Tout ce qu'il y a de plus vivant en fait. Vous voyez, a-t-il crié, je suis innocent, je ne mérite pas la potence. Les représentants officiels ont trouvé une corde plus courte et ont vu à ce que l'homme soit pendu une deuxième fois, sans égard à ses protestations. Cette fois, ils ont réussi à accomplir leur horrible tâche. Nous allons maintenant quitter l'hôtel de ville. Pour ce faire, passez par la porte arrière de l'édifice, située dans la halle, à gauche de l'aire d'accueil. Tournez ensuite à droite et dirigez-vous vers la fontaine. Le saviez-vous? Depuis l'époque de Sir John A. Macdonald, les premiers ministres canadiens de toutes les partis politiques ont eu des affinités avec Sir John. Saviez-vous qu'aujourd'hui, notre 22e premier ministre, le très honorable Stephen Harper, affiche un grand portrait de Sir John A. dans son bureau privé sur la colline du Parlement? Vous vous trouvez maintenant à la place du marché Springer. Observez les bâtiments qui vous entourent. Vous remarquerez que rien n'a vraiment changé. Si vous faites abstraction des voitures et des autres signes de modernité, je suis convaincu que vous réussissez à imaginer les milliers de gens qui se sont rassemblés à cet endroit, même le 1er juillet 1867, jour où Sir John A. Macdonald a réalisé son rêve, celui de créer un seul Canada. Le fils le plus populaire de Kingston, désormais le premier ministre du Canada, n'assistait pas aux activités qui ont lieu ici ce jour-là, retenu par ses obligations politiques et les célébrations dans la nouvelle capitale, Ottawa, située à 2 heures de Kingston en voiture de nos jours. Pour Sir John A. Macdonald, le 1er juillet représentait également une journée spéciale sur le plan personnel. Il a été fait chevalier par la reine Victoria cette même journée, ce qui lui a donc valu le titre de Sir John A. Je vous invite maintenant à quitter la place du marché Springer en empruntant la rue King en direction ouest. Pour ce faire, engagez-vous sur la rue King Est depuis l'angle des rues King Est et Market. Poursuivez votre chemin jusqu'au 191 rue King Est, maison de Sir Richard Cartwright, qui se trouve à l'angle des rues King Est et Gore. Comme tous les visiteurs de Kingston qui souhaitent en apprendre davantage sur la vie de Sir John A., vous avez sûrement déjà eu vent des problèmes de consommation d'alcool du premier homme à avoir occupé les fonctions du premier ministre du Canada. Il buvait effectivement trop. Au pied de sa pierre tombale en 1991, lors du 100e anniversaire de sa mort, le premier ministre Brian Mulroney, 18e de la lignée, a emprunté l'une des citations du défunt sénateur Heath McCorry de l'Île-du-Prince-Édouard afin de décrire cette tranche de vie de notre héros et personnage particulier. Il avait beaucoup plus de ressemblance avec Robbie Burns qu'avec St. Andrew, alors que le très sympathique M. Burns avait un penchant pour le vin, les femmes et la musique, son compatriote, John A., n'était pas un coureur de femmes et n'avait aucun talent de musicien. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. En 1857, selon les dossiers de la police, on comptait pas moins de 37 tavernes sur la rue Ontario, 9 bars sur la rue Wellington, 14 bars sur la rue King, 20 sur la rue Princesse, 12 sur la rue Johnson et 19 tavernes à la place du marché. Il y avait 60 autres tavernes un peu partout dans la ville, dont 2 étaient situées dans l'hôtel de ville. C'est donc tout naturellement que Sir John A. s'est mis à aimer la bouteille pendant cette période où l'alcool coulait à flot. Toutefois, bien conscient des dangers qui représentent ce vice, il a même une bonne fois demandé à l'un de ses ministres de s'abstentir de consommer d'alcool, le prévenant que son gouvernement ne pourrait pas tenir le coup avec 2 alcooliques à sa tête. Voici d'autres faits historiques intéressants à propos de Sir John A. Le saviez-vous? Saviez-vous que Sir John A. Macdonald n'est pas le seul premier ministre qui a vécu à Kingston? Alexander Mackenzie, qui est devenu le 2e premier ministre canadien, a vécu à Kingston où il travaillait comme maçon. Il a même participé à la construction de quelques-unes des fortifications historiques de la ville qui sont encore visibles aujourd'hui. Et saviez-vous que Sir John A. Macdonald ressemblait de façon troublante à l'un des plus grands premiers ministres du 19e siècle, Benjamin Disraeli? Selon la légende, lorsque Sir John A. était au Royaume-Uni après le décès de Disraeli, une femme se serait évanouie en voyant Sir John apparaître dans une fête. Elle croyait voir le célèbre Disraeli ressuscité. À une autre occasion, les deux premiers ministres avaient passé ensemble une soirée bien arrosée dans la propriété de Disraeli en Angleterre. 191 rue King Est, Sir Richard Cartwright House. Vous croyez probablement que Sir John A. faisait l'unanimité au sein de la population canadienne. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il est pourquoi nous arrêtons ici. Affirmer que Sir Richard Cartwright détestait Sir John A. serait un formidable euphémisme, même sur le plan politique. Les termes « horreur » et « dégoût » sont plus appropriés. Kingston était une petite ville au 19e siècle, et l'on peut supposer qu'elle ne pouvait pas soutenir deux leaders conservateurs, Sir Cartwright et Sir Macdonald. Une querelle éclata entre ces deux politiciens ambitieux, et Sir Cartwright eut tôt fait de joindre les rangs des libéraux. Sir John A. a été destitué suite au dévoilement de ce qu'on qualifie de scandale politique canadien sans précédent, le scandale du Pacifique, où il acceptait des pots de vin au nom de son parti de la part d'entrepreneurs ferroviaires. Un homme qui a également habitué à Kingston, un Écossais n'ayant aucune propension à l'alcool, Alexander Mackenzie, est devenu le 2e premier ministre. Il est demeuré au pouvoir de 1873 à 1878. Sir Richard Cartwright, qui a probablement porté la plus longue moustache de toute l'histoire du Canada, a été nommé ministre des Finances. Les sentiments de Sir Cartwright à l'endroit de Sir John A. ne se sont guère améliorés lorsque ce dernier a battu M. Mackenzie et Cartwright lors des élections de 1878 et a repris le pouvoir malgré le scandale. Des années plus tard, M. Cartwright a encore assisté impuissant à la victoire de ce journée sur les libéraux dans une élection nationale dont l'enjeu majeur était le libre-échange avec les États-Unis, que l'on appelait réciprocité à l'époque, une cause qui défendait ardemment Cartwright. « Britannique je suis né, Britannique je mourrai », clamait haut et fort Sir John A. durant sa dernière campagne électorale en 1891, tandis que les libéraux comme M. Cartwright ne pouvaient que pleurer leur inévitable défaite. Sir John A. aurait été victorieux jusque dans la mort. En 1911, M. Cartwright, alors ministre du Commerce dans un autre cabinet libéral, a été une fois de plus témoin du rejet du libre-échange par les Canadiens. Continuez de marcher le long de la rue King jusqu'à l'hôtel Belvedere, situé à 141 rue King Est. Le saviez-vous? Saviez-vous que, même s'il est décidé en 1891, Sir John A. Macdonald est honoré encore de nos jours lors de grandes cérémonies publiques qui ont lieu ici chaque année? La Société d'histoire de Kingston organise un souper de fête annuel en honneur de Sir John A. en janvier, et ces mêmes vaillants citoyens locaux organisent un service de souvenir près de la tombe tous les 6 juin, date anniversaire du décès de Sir John A. Macdonald. Dans les années 1940, le magazine Vogue a décrit cet hôtel boutique comme le seul hôtel abordable entre Montréal et Toronto. Avant d'être converti en hôtel, il s'agissait d'une résidence privée. C'est en ce lieu même, en octobre 1925, seulement 9 jours avant le scrutin, qu'est survenu l'un des incidents les plus étranges de l'histoire canadienne. Le premier ministre de l'époque, William Lyon Mackenzie King, a rendu visite à deux médiums avant de prononcer un discours au Grand Théâtre en soirée. Il leur a même fait parvenir un de ses mouchoirs avant de les rencontrer, sans dire qu'il lui appartenait afin qu'elles puissent exercer leur pouvoir magique. M. King a laissé en héritage un journal personnel très volumineux et, grâce à ce dernier, nous pouvons vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là au Belvedere. Lorsque je me suis assis en face d'elle, elle m'a demandé de lui remettre quelque chose que j'avais porté. Je lui ai remis un autre mouchoir qu'elle a roulé dans ses mains. Elle s'est mise à parler avec volubilité, sans que je lui demande quoi que ce soit, a confié M. King dans son journal le 20 octobre 1925. Je suis resté assis, immobile, sans expression au visage. J'étais très fatigué et moins clairvoyant qu'à l'habitude. Puis les médiums se sont mis à prédire l'avenir. Elles ont dit au premier ministre du Canada qu'il allait bientôt marier une jeune femme et qu'ils allaient vivre dans une grande maison en Californie ou à Vancouver. M. King a alors aperçu des silhouettes sinistres qui ressemblaient singulièrement à son adversaire conservateur et au gouverneur général avec qui il était en froid. M. King a rédigé de longs écrits sur ses rencontres avec l'au-delà. Les répercussions de cette discussion avec cette petite femme, sa médium préférée, Madame Blaney de Kingston, sont étranges, a-t-il conclu. Elle m'a permis d'avoir des contacts avec mes proches qui se trouvent dans l'au-delà, ce qui semble davantage être pour moi l'omniprésence. Ici et maintenant, je ne pourrai jamais plus remettre en doute le spiritualisme après l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Le premier ministre King a été très impressionné. Ces deux femmes auraient probablement pu lui faire avaler n'importe quoi. Ne nous écartons pas trop de notre sujet. Le premier ministre King a eu une idée après son expérience de spiritualisme, se rendre à la tombe de Sir John A. Macdonald afin de rendre réellement visite aux morts. Il s'agit d'une pierre tombale très simple, a-t-il écrit. La mienne sera semblable. J'aurais aimé que, dans l'épitaphe de Sir John A., on puisse lire premier ministre du Canada avec les dates, mais peut-être cela convient-il davantage à une statue ou à un autre monument commémoratif. Poursuivons maintenant la visite. Traversez la rue Ouest au feu de circulation. Rendez-vous ensuite au pied de l'imposante statue de Sir John A. Macdonald qui se trouve dans le magnifique parc City Park. Cette statue a été érigée en 1895 à l'honneur du fils le plus célèbre de la ville. Encore aujourd'hui, le 11 janvier, proclamé par une loi du Parlement Journée Sir John A. Macdonald partout au pays, un groupe de résidents enthousiastes de Kingston se rassemble à midi afin de chanter « Joyeux anniversaire au Canada et Dieu protège la reine » en l'honneur de Sir John A. Certains vont même jusqu'à prendre quelques gorgées de liquide inconnu dans les flacons et à porter un toast à Sir John A. malgré la neige et le froid. En 1941, lors du 50e anniversaire du décès de Sir John A., des milliers de personnes se sont réunies ici afin de souligner la perte du père de la Confédération. Le premier ministre de l'époque, M. Mackenzie King, a pris la parole, s'est également adressé à la foule un ancien premier ministre Arthur Meehan. John Diefenbaker, futur premier ministre, inconnu de la population à l'époque, était également présent. Même des dignitaires étrangères, dont nul autre qu'un premier ministre de Grande-Bretagne, ont défilé devant la statue et y ont déposé des couronnes de fleurs en mémoire de Sir John A. M. Mackenzie King y a amené le premier ministre Stanley Baldwin, qui s'est rendu visiblement à contre-cœur en août 1927. Le premier ministre King, le colonial, n'aimait pas tellement l'attitude des invités anglais. Il songeait sans doute au futur statut qui serait érigé en son honneur. Tout s'est déroulé de manière précipitée, a confié M. King dans son journal. J'ai été un peu surpris que Baldwin n'ait pas ralenti le pas et qu'il ne se soit pas montré un peu plus respectueux. Il a agi de manière très flegmatique. Dirigez-vous vers le nord de la rue Ouest jusqu'à ce que vous croisiez la rue Sydenham. Tournez à droite et continuez jusqu'à l'intersection des rues Earl et Sydenham. Arrêtez-vous au 134 rue Earl. Repérez la plaque historique et arrêtez-vous devant. En marchant le long de la rue Ouest, vous pouvez apercevoir à gauche le Park City Park, qui tient lui aussi une place importante dans l'histoire de la ville de Kingston. Le Park City Park est le premier parc municipal public du Canada et illustre bien l'idée que se faisait Frederick Law Olmsted à l'époque, c'est-à-dire du 19e siècle, de la conception de l'aménagement des parcs communautaires. Monsieur Olmsted est en outre l'architecte paysagiste du célèbre Central Park de New York. En 1841, le gouvernement fédéral avait acheté le terrain sur lequel se trouve le Park City Park dans l'intention première d'y construire les édifices du Parlement canadien. Le saviez-vous? Saviez-vous que Sir John A. Macdonald a été l'un des premiers partisans de l'Université Queen's? Ce fut donc très approprié que le premier ministre Sir John Diefenbaker soit présent lorsque l'Université Queen's a baptisé l'édifice qui loge sa faculté de droit au nom de Macdonald Hall, au pavillon Macdonald. Après le décès de Margaret, la sœur de Sir John A., Louisa, son autre sœur, et James Williamson, son beau-frère, désormais veuf et professeur à l'Université Queen's, ont continué de cohabiter ici et de former une famille très unie. Durant sa vie d'homme marié, le Reverend Williamson a vécu l'expérience toute particulière d'héberger sous son toit la belle-mère écossaise et Louisa, sa belle-sœur. De 1865 à 1876, les Williamson et Louisa ont également logé tous ensemble à Heathfield, une résidence située à 1200 de la rue Princesse, qui était, à l'époque, une ferme à l'extérieur des limites de la ville, et qui est aujourd'hui la maison mère des Sisters of Providence de Saint Vincent de Paul, la seule congrégation religieuse à avoir été fondée à Kingston. Et, comme si cela ne suffisait pas, le professeur Williamson, qui ressemblait beaucoup au personnage biblique de Job, et sa femme ont élevé, pour ainsi dire, le fils de Sir Johnny, car Sir MacDonald avait décidé de faire carrière sur la scène politique après le décès de sa première femme. Pour ceux et celles qui seraient portés à croire que Sir Johnny avait gagné le gros lot avec sa belle famille, surtout si on le compare au professeur Williamson, signalons que la belle-mère et le beau-frère de Sir Johnny sont venus vivre avec lui à Ottawa après son second mariage en 1867. Malgré les tensions familiales inévitables, le professeur Williamson est demeuré très près de Sir Johnny, même après le décès de sa propre épouse. Joe Pope, le fidèle secrétaire de Sir Johnny, a décrit en 1891 le professeur Williamson de la façon suivante. Un veuf habitant une triste maison qui offrait un degré de confort minimal, manquait affreusement d'une touche féminine et était assiégé par les politiciens motivés par leur propre intérêt et les services arrachés aux pauvres hommes, a écrit M. Pope. Sir Johnny habitait dans cette maison durant sa dernière campagne électorale à l'hiver de 1871. Durant cette période, il a fait une confidence à M. Pope. Tous les premiers ministres qui lui ont succédé se sont assurément reconnus d'une façon ou d'une autre dans cette affirmation. « Joe, m'a déclaré Sir Johnny un après-midi alors qu'il était étendu dans sa sermone, si vous voulez connaître les profondeurs de la méchanceté humaine, vous devez vous présenter aux élections générales comme premier ministre. » Continuez de marcher le long de la rue Sydenham sur une distance d'environ 2 pas de maison, puis tournez à droite dans la rue Johnson. Arrêtez-vous à 194 rue Johnson. Malgré tout le succès qu'il remportait en politique, la vie personnelle de Sir Johnny était, au contraire, frappée par le malheur. Alors qu'il était garçon d'écurie, il avait assisté au meurtre de son jeune frère battu à mort par un domestique ivre dans une rue de Kingston. Quant à son premier mariage avec sa cousine Isabella, il s'inscrivit dans la même lignée d'infortune. Pendant presque toute la durée de leur union, Isabella souffrit de maux de la dépression, contractant différentes maladies que seul l'opium, un traitement commun à cette époque, parvenait à apaiser. Sir Johnny arriva à la maison la veille de Noël, 1857, après s'être acquitté de tâches politiques à Toronto. Il trouva Isabelle agonisante. Elle mourut 3 jours plus tard. Ses funérailles eurent lieu dans cette maison. Sir MacDonald perdit également un nouveau-né emporté par la maladie et avait assisté impuissant au combat qu'il avait mené sa fille Marie, qui s'est finalement éteinte seule en Angleterre en 1933 pour surmonter un handicap permanent. Continuez de descendre la rue Johnson jusqu'au numéro 180. C'est dans cette maison que le seul fils de Sir Johnny à avoir atteint l'âge adulte est né, le 13 mars 1850. Les heureux parents, John et Isabella MacDonald, nommèrent l'enfant Hugh John. Bien que Hugh John ait été confronté à un avenir difficile, Il a perdu sa mère alors qu'il était encore tout jeune et s'est éloigné de son père à l'âge adulte parce que ce dernier avait épousé une femme plus âgée qui était stupéfaction, une catholique. Il a connu une vie florissante. Lors de l'une de ses dernières sessions à la Chambre des communes, Sir John Hay a présenté son collègue conservateur, député et fils, Hugh John. Son fils avait été élu député au Manitoba. Hugh John est plus tard devenu le premier ministre du Manitoba et a été fait chevalier. Continuez de marcher le long de la rue Johnson sur une distance de deux pâtés de maison jusqu'à la rue King, puis tournez à gauche dans la rue King. La visite se termine à la place du marché Springer. Le saviez-vous? Saviez-vous que l'autoroute empruntée par la majorité des touristes qui arrivent ici, sauf évidemment ceux qui prennent un train, un avion ou un bateau, se nomme officiellement l'autoroute MacDonald-Cartier? C'est parce que l'autoroute 401 relie l'Ontario et le Québec que le gouvernement ontarien a pris la décision de la nommer en 1965 pour Sir John A. MacDonald et son partenaire québécois, Georges-Étienne Cartier. Et saviez-vous que Sir John A. MacDonald était à l'occasion très coléreux? Une fois, durant un débat législatif pré-confédération, il a insulté Oliver Mowat, son confrère kingstonien, également ancien étudiant en droit de Sir John A. et futur premier ministre de l'Ontario. « Damné Blancpec, je te flanquerai une gifle! » Le dernier emplacement de notre visite guidée à pied sur Sir John A. MacDonald est tout désigné. C'est ici même que la Confédération a été célébrée le 1er juillet 1867. Moins d'un an avant son décès, en 1979, le premier ministre du Canada, John Diefenbaker, a rendu hommage à Sir John A. dans le livre « MacDonald of Kingston » du défunt professeur Donald Swainson de l'Université Queen's. Le 13e premier ministre du Canada a fait des commentaires suivants à propos du premier homme à avoir occupé le titre du premier ministre du Canada. Lorsque des gens demandaient où était le monument à la mémoire de ce grand homme, nous leur répondions la même chose que pour Sir Christopher Wren. Si vous voulez voir son monument, regardez autour de vous. Son héritage, c'est le Canada. Sir MacDonald de Kingston fut le premier, ce à quoi plusieurs ajouteront le plus grand, des premiers ministres du Canada. Sir John A. MacDonald a comblé le fossé entre francophones et anglophones et a jeté les bases du Canada dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il l'a fait en rivalisant d'adresse et de génie à cette époque lointaine. Pour voir le jour, la Confédération avait besoin d'un brillant maître d'œuvre, rôle qui a joué Sir MacDonald alors que le Canada en avait le plus besoin. Passé maître dans l'art de faire de la politique et de diriger, il fut un premier ministre et un chef de parti qui a su gouverner et bâtir en tablant sur le consensus plutôt que sur la division et rallier le plus de Canadiens possible à sa vision politique. Sir John A. avait ses défauts qu'il a pourtant si peu tenté de cacher. C'est sans doute pour cette raison qu'il était respecté des Canadiens à cette époque et encore aujourd'hui. Sir MacDonald de Kingston, comme l'a écrit le biographe Richard Gwynn, est celui qui nous a fait. Pour vous renseigner davantage sur la vie de Sir John A. MacDonald et sur l'héritage qu'il nous a légué, je vous invite à visiter le lieu historique national du Canada à la Villa Bellevue, située sur la rue Centre, au nord de la rue King. Vous vous y retrouverez en parcourant une courte distance en automobile ou en marchant 5 minutes vers l'ouest à partir de l'illustre Université Queen's et le long de notre magnifique secteur riverain. Sir John A. et sa première épouse, Isabella, ont habité la Villa Bellevue dans les années 1840, laquelle a depuis été restaurée à l'état de cette époque. De plus, la tombe de Sir John A. Macdonald au cimetière Cataraqui, également désigné lieu historique national, vaut le détour. Fondé en 1850, le cimetière Cataraqui se trouve à l'est du chemin Sydenham, juste au nord du boulevard John Counter. L'entrée principale se situe sur Purdy Mills Road. Merci d'avoir participé à cette visite à pied guidé sur les traces de Sir John A. Macdonald. C'est à Peter Milliken, fier Kingstonien et député, qui vous remercie d'avoir pris le temps de découvrir les liens qui unissent Sir John A. Macdonald à Kingston, surnommée la ville de Calcaire. Nous sommes fiers de ce rapport unique qui nous lie au tout premier Premier ministre du Canada, comme ce fut le cas pour nos ancêtres le 1er juillet 1867, jour de l'unification de notre pays, que l'on attribue principalement au travail de sept hommes et dirigeants d'exception qui avaient élu domicile à Kingston. Je vous encourage à poursuivre votre exploration de Kingston et de ses environs pendant votre séjour dans notre région. Kingston est aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et, à ce titre, elle a beaucoup à vous offrir. Pour de plus amples renseignements, je vous invite à vous rendre au centre d'accueil situé à 209 rue Ontario, à proximité de la locomotive à vapeur surnommée, vous vous en doutez bien, l'esprit de Sir John A. Tout le monde à bord!